BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tout pour investir TPI sur BFM Business. Ça commence pour une heure consacrée à votre patrimoine, vos investissements, vos finances personnelles, votre épargne. Alors bon, ça remue fort hein. Sur les marchés, ça part un petit peu à nouveau dans tous les sens. Forte baisse des bourses asiatiques ce matin avec notamment les semi-conducteurs, particulièrement bourse de Séoul. Hein. Ça a été assez violent, mais Tokyo n'y a pas échappé. Alors, prise de bénéfices, changement de paradigme, on va peut-être essayer de démêler les chevaux quand même ce matin dans le déchiffrage avec Félix Baron du Club des investisseurs indépendants et Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Focus notamment sur les bons réflexes à avoir avant les vacances, hein, quand on a un œil sur son patrimoine. L'été, c'est précisément une période de turbulence potentielle sur les marchés, vous avez qu'à voir. Christian Fontaine, avec lequel on fera aussi un petit point dans la boîte à outils sur un sujet plutôt sympa. Commencer à se constituer un patrimoine quand on a 30 ans. Voilà, un nouveau regard, hein, celui de Christian Fontaine avec tous ses bons conseils. Gros plan sur les ETF aussi, hein, comme régulièrement avec Arnaud Gian de BlackRock. Focus sur un sujet qui vous passionne tous, hein, surtout depuis l'introduction de SpaceX, à savoir comment investir correctement sur l'espace, sur toutes les dynamiques du secteur spatial via les ETF. On voit ça bien sûr dans le placement à suivre. Et puis, toujours cette question autour du secteur des logiciels. On a l'impression d'une deuxième vague de disruption qui est en cours, hein, du côté des investisseurs persuadés que l'intelligence artificielle va pulvériser l'industrie. Comment ça se passe du côté des grands investisseurs institutionnels? Vous allez voir qu'il y a du mouvement, surtout chez des gros acteurs qui ont traditionnellement toujours financé ce secteur. Rendez-vous en fin d'émission avec Stéphane Rudzinski de Rhetores, hein, qui s'y connaît sur ce sujet, pour y voir clair. Vous pouvez nous joindre par mail. Alors l'adresse, c'est direct@bfmbusiness.fr pour nous poser toutes vos questions. Sinon, vous nous les envoyez avec un SMS 73216. Tapez le mot-clé business suivi de votre message. Et puis Twitter et LinkedIn, hein, vous pouvez me mentionner sur mes comptes et puis on essaie de régler ça pendant l'émission. Le reste de l'actualité du jour, le rebond est prudent mais perceptible dans le détroit d'Ormuz. Kepler, recensé en fin d'après-midi hier, 26 franchissements de navires de matières premières sur la journée, ce qui laisse penser que le record à 38 bateaux de samedi pourrait être dépassé une fois l'ensemble de ces données consolidées. En attendant ce matin, le négociateur iranien le répète, la voie restera administrée par Téhéran, même s'il promet que les règles internationales seront respectées. Et puis chez nous, la canicule qui se poursuit tranquillement. EDF annonce ce matin la mise à l'arrêt de sa centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne pour contrainte environnementale, anticipant une montée de la température du fleuve, hein, au-delà de la limite qui lui permet de s'en servir pour refroidir les réacteurs. Est-ce que l'approvisionnement est assuré? Par ailleurs, on a vu une très forte hausse des rendements du photovoltaïque, notamment hier, qui avait plus 30%. Aucune vigilance particulière à avoir pendant cette période, assure RTE, qui rappelle que la France produit toujours plus qu'elle ne consomme malgré le boom de la climatisation. Et puis, évidemment, tout cela est alimenté par de l'énergie très, très largement décarbonée. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et c'est la rechute du côté des marchés européens. Alors, bien méchant, le CAC 40 fait moins 0,9%. On est à 8325 points, mais alors c'est très sensible sur tout ce qui est compartiment technologique, vu que l'Euronext Tech Leaders perd 2,5%. L'Eurostock 50, moins 1,39, moins 1,48 pour le DAX à Francfort, moins 0,92 pour l'IBEX à Madrid. On voit que Paris surperforme quand même largement la tendance européenne. Alors, grâce à quoi? Notamment grâce aux valeurs un peu petit peu plus traditionnel, Eurofins Scientifique plus 2,11 à 64,80, Sanofi plus 1,53 à 76,60 €. Et alors se confirme ce mouvement de granularité hein, qui touche le secteur tech. On ne va pas investir sur la tech de manière générale, mais on a vu qu'il y avait énormément de prises de profit et d'interrogations autour de l'IA, autour des semi-conducteurs. Et ça, qui en profite? Les sociétés de logiciels. Capgemini gagne 2,28% à 89,82 €. Dassault Systèmes plus 1,6% à 17,31 €. Vous voyez, c'est un mouvement de balancier qui est en train de vraiment s'organiser. Quand la tech, l'IA et les semi-conducteurs sont en forme, c'est mauvais pour les logiciels. Et inversement, là, on voit qu'il y a des prises de profit dans le sillage de ce qui s'est passé ce matin du côté des bourses asiatiques, je vous le disais, notamment du côté de la bourse de Séoul, qui a dû activer ses freins artificiels pour ralentir la baisse du marché, notamment à cause de la très forte baisse d'SK Hynix, qui était devenue la première capitalisation du pays devant Samsung hier. Prises de bénéfices ont été extrêmement violentes. Et dans le sillage, ce matin en Europe, on a ST Micro qui perd 7,3% à 64,33. On a également Soitec, moins 9,2%, 117,50 €. Sinon, on a aussi du côté du secteur auto des allègements. Renault perd 5,3% à 26,35 €. On a aussi des prises de bénéfices, mais sur Legrand et Schneider Electric qui avaient très très bien marché ces dernières séances. Legrand qui perd 4,5% à 147,10 € et Schneider Electric moins 4,4%, 280 €. À noter que le secteur de la santé est bien orienté. Je vous parlais de Sanofi en tête des progressions du SBF 120. On a Abivax qui gagne 2,9% à 88,25 €. Medincell plus 2,55 € à 25,70 €. Puis à noter Ipsen aussi plus 2,16 €. 160,60 €. Les taux se détendent sur le marché obligataire. On est à 3,58 € sur le 10 ans français, 2,93 € sur le 10 ans allemand, 4,48 € sur le 10 ans américain. Et puis alors, forte baisse du côté de l'once d'or fin qui redescend à 4123 $. On vous en parlait hier avec Antoine Andréani d'XTB. Forte pression baissière toujours sur l'or. Mais alors là, on a des gros acheteurs qui sont toujours à l'affût quand les cours, justement, passent sous ces seuils symboliques. À noter le pétrole qui reste vraiment sage sous les 80 $, 77,40 $ à l'instant. Allez, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Eh oui. Encore une fois, ce phénomène de granularité. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et bonjour à Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
On va peut-être commencer par là. C'est vraiment le retour de balancier express autour de l'industrie des semi-conducteurs. Donc on le répète ce matin, la bourse de Tokyo, forte baisse. La bourse de Séoul qui a dû activer ses freins. Alors qu'on avait un retournement de tendance très violent sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Et notamment SK Hynix qui est passé lors de la séance d'hier devant Samsung en termes de capitalisation boursière. Bon, toujours la très forte dynamique des puces mémoire. Est-ce que le paradigme change ou est-ce qu'on est sur des prises de profit massives par bloc quand on passe des seuils symboliques comme ça a pu se passer hier? On a l'impression que c'est un phénomène de retour de balancier assez net. Et puis surtout, encore une fois, cette granularité, c'est-à-dire je te vends les semi-conducteurs, je rachète les logiciels. Vous voyez, avec toujours ce... On en parlera d'ailleurs en fin d'émission de ce souci autour de ces tendances disruptives que l'IA a, réelles ou supposées, sur le secteur des logiciels. Enfin, encore une fois, la tech, c'est granuleux, on va dire, Félix.
C'est granuleux, ouais. C'est surtout disparate. C'est ça qui... Et la journée d'hier, en fait, à Wall Street, surtout sur le Nasdaq, elle a été représentative de...
Super parlante, ouais.
De ce qui se passe dans la tech en ce moment. Et c'est passionnant si vous voulez suivre un portefeuille ou suivre les bonnes actions dans la tech. On commence par les semi-conducteurs. Bain de sang, hein, excusez-moi l'expression, sur l'économie des semi-conducteurs hier.
Ça a été violent.
Pourquoi ? Parce que, en fait, au bout d'un moment, le marché a fini par se dire... Et c'est l'exemple de ARM Holdings qui a pris le plus cher avec moins 7,2% en une séance. Il faut revenir quand même à il y a longtemps pour voir une telle baisse en intraday. Elle était tellement valorisée qu'au bout d'un moment, vous avez quand même le marché qui se dit bon, il y a quand même AMD et Intel aussi qui existent, qui sont capables de faire des semi-conducteurs. Le marché des smartphones, là, il est saturé. Hein, globalement, on n'est pas en rupture de stock sur les smartphones, tout va bien. Ouais. Et puis, sur le marché des serveurs, je vous dis, il y a quand même la concurrence d'autres acteurs qui sont historiques, comme AMD et Intel. Donc, hier et en ce moment, il faut pas être trop sur les semi-conducteurs parce que ça corrige. Il faut pas non plus être trop sur le spatial un peu fourre-tout. Et on y va sur si on refait la séance d'hier sur SpaceX, ça commençait par SpaceX.
Ce matin, vous avez vu le cours en avant-marché et sous son premier cours de cotation lors de l'introduction en bourse, on est à 148 $ désormais.
Moi, j'étais là il y a deux semaines, j'ai dit ce que je pensais de l'IPO de SpaceX.
Oui.
Je me suis pris des centaines de commentaires sous la vidéo et je les accepte avec beaucoup de plaisir. C'est toujours bien d'avoir raison avant le marché. Moins 17% hier, quelle surprise ! Lever 75 milliards de dollars à l'IPO, en fait, ça ne suffit pas, parce que hier, si ça a autant baissé, c'est qu'on a appris que SpaceX est en train de préparer une émission obligataire de 20 milliards de dollars. Pourquoi ? Pour financer, non pas une acquisition, pour financer les coûts liés à l'intégration de xAI. Donc, on est en train d'intégrer dans SpaceX une boîte qui ressemble à l'écosystème SpaceX, à l'écosystème, puisqu'elle a été créée par Elon Musk, et ça coûte 20 milliards. Donc, il y a une énorme alerte en fait à ce qu'on appelle le cash burn et à l'argent que ça coûte d'aller lever 20 milliards parce que vous en parliez il y a 5 minutes. Le 10 ans aux États-Unis, ça coûte 4,48. Vous rajoutez à ça une prime de risque. Aller lever 20 milliards à au moins 5-5,5%, ça coûte 1 milliard par an. Donc alerte au cash burn.
Voilà.
Sur SpaceX, on peut dire que les fusées décollent. En tout cas, là, en ce moment, elles atterrissent. Heureusement, elles atterrissent sans exploser grâce à Musk. Bain de sang aussi sur Alphabet, qui a pris un crochet du droit plus un uppercut. Moins 5% hier. En fait, il y a eu deux annonces. Alors là, c'est vraiment... C'est pas lié au secteur, c'est vraiment coup de malchance pour Alphabet. La justice californienne qui a dit qu'elle annulait, elle refusait d'annuler le procès qui était intenté donc pour addiction de YouTube chez les mineurs. Donc le problème existe, mais ce qui fait peur au marché, en fait, c'est les provisions à passer en prévision donc de potentielles amendes colossales sur un procès comme ça.
Et plus... puis il y a la fuite des cerveaux aussi.
Et voilà, et le départ donc de Noam Chaser et de John Jumper qui sont partis, c'était les deux. En gros, deux des pontes de l'IA chez Alphabet et qui partent chez OpenAI et chez Anthropic. Ça la fout un peu mal pour Google. Ensuite, vous avez eu Oracle, moins 5%. Là, c'est sanctions générales et Amazon et Microsoft, c'est pareil. Hein. Sanctions générales sur tous les modèles qui sont liés au cloud parce que là, c'est pas tellement qu'ils étaient survalorisés. Microsoft, on peut pas dire qu'elle soit survalorisée. C'est juste que il y a des dépenses d'infrastructure énormes par rapport à un ROI, donc un retour sur investissement des modèles d'abonnement cloud IA qui, pour l'instant, ne se font pas tellement ressentir par chiffre d'affaires. Et c'est encore un sous-problème du secteur de la tech qui est très important. Ouais. Est-ce qu'on peut facturer le cloud IA à l'abonnement, donc tu me dois 400 balles par mois, ou est-ce qu'on doit le facturer au coût d'inférence et à l'utilisation réelle de la puissance de calcul? Ou là, on rentre dans la granularité, comme vous disiez, c'est très différent. Donc, attention au cloud et au serveur, c'est nécessaire, c'est des coûts d'infrastructure, mais le ROI reste à attendre. Et alors, celui qui n'a pas de chance, c'est Broadcom, la victime collatérale par excellence. Elle a perdu 5%.
Ouais.
Parce que quand vos clients comme Google, Microsoft, Meta prennent l'eau, la bourse, elle estime que vous êtes trop proche. Et elle panique. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la bourse retrouve un peu la raison. Il y a des réflexes d'analyse fondamentale qui reviennent. Tiens, si on regardait quand même la valeur de ce qu'on a acheté, si on regardait la perspective du ROI, si on regardait si c'était pas trop déconnecté, est-ce que les coûts d'intégration de SpaceX sont raisonnables ? La réponse, elle a été donnée hier, mais dans la même journée, là j'ai présenté des boîtes qui avaient perdu beaucoup, vous avez Micron qui prend plus 6,8%, SanDisk plus 5,5% et Intel plus 5,2%.
Et on est dans le même secteur.
C'est fou. Hein. C'est rare de voir une journée où le Nasdaq évolue de manière aussi disparate.
Ouais.
Micron, pourquoi ils prennent 7%? Parce qu'on est toujours dans le super cycle de la mémoire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saturation et de rupture de stock sur la mémoire HBM.
Et puis on achète un peu à crédit aussi les résultats qui doivent tomber demain soir de mémoire.
J'en parlais hier avec Mathieu Serron qui vient souvent ici.
Ouais.
Micron à bientôt 1 200 $, et la première fois qu'on en a parlé ici, c'était en décembre, à 220 $, elle est encore pas chère en termes de multiples de forward
sur le PER.
Voilà. Donc, elle a annoncé, en plus de ça, un partenariat avec Anthropic pour devenir le fournisseur officiel. Dans le même temps, vous avez SanDisk qui fait de la mémoire flash sans laquelle la HBM ne marche pas, donc les deux ont flambé. Et puis alors, Intel, moi, c'est celle-là, je finis par Intel, qui représente le mieux la journée d'hier, en fait, c'est la rotation value. C'est le dinosaure qui se réveille. Les capitaux des investisseurs fuient ce qui était survalorisé ou qui était douteux en termes de rentabilité. Et on revient sur la bonne vieille Intel, qui a des actifs tangibles, qui est rentable depuis très longtemps.
Qui est couvée par le gouvernement américain.
Qui fournit des puces PC classiques traditionnelles sur lesquelles il n'y a pas des coûts d'infrastructure énormes. Et qui en plus a des progrès dans sa division de fonderie. Donc Intel, c'est le retour minoritaire, mais ça commence vers une allocation un peu plus value sur le marché de la tech. Donc, pour tous ceux qui suivent et qui ont des portefeuilles, soyez sélectifs, à l'image de la journée d'hier à Wall Street.
Pas facile, parce qu'au milieu de tout ça, Christian Fontaine, et moi je me rappelle les étés qui commencent en bourse, ça commence toujours par un coup de mou, et ensuite arrivent des événements un peu extraordinaires. Alors c'est vrai que là on a la tourmente politique au Royaume-Uni, on a des inquiétudes très fortes autour de l'Allemagne. On voit qu'au Japon ça va pas super bien non plus, notamment à cause de considérations monétaires. On on a vu hein, il y a quelques années que c'est aussi du Japon de temps en temps que peuvent venir les coups de mou. Et puis on a ces brusques retournements de balancier là sur les marchés qui sont très très violents sur des secteurs qui intéressent beaucoup les investisseurs qui veulent s'y exposer. Voilà, est-ce que l'été qui commence à peine là s'annonce plein de turbulences, est-ce qu'il faut garder l'œil dessus?
Alors oui, bien sûr. Et en fait, toute la question est de savoir si ce coup de grisou sur les microprocesseurs qui a quand même entraîné et qui entraîne à l'heure actuelle une baisse de l'indice MSCI Emerging Market de quelques 5% depuis le début de la journée. Est-ce que ce coup de grisou est le signe avant-coureur d'un retournement plus important et dont il faudrait se protéger? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. On est quasiment fin juin. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du premier semestre? En fait, les marchés ont été d'une résilience incroyable. On a eu deux chocs quand même géopolitiques majeurs. Vous avez eu le Venezuela. Alors, c'était tout le début du mois de janvier, dans la nuit du 2 au 3 janvier. Et ensuite, vous avez eu le 28 février, le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et face à ça, quand on fait un peu le bilan, fin juin, on se rend compte que peu ou prou, tous les grands indices sont à la hausse, autour de 10% pour Standard & Poor's 500. Vous pouvez même rajouter 2 points de hausse du dollar pour les investisseurs en euros. Ça fait des gains non négligeables. Quant à l'Eurostock 600, il est autour de 6-7% de hausse. Donc, c'est aussi très bien. Donc, on a un tout petit peu l'impression que les marchés disent, même pas peur, les marchés de ces dernières années ont quand même encaissé des chocs absolument phénoménaux. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Covid, et pour autant, les entreprises sont résilientes. Est-ce qu'on peut penser que ça va continuer comme ça, ad vitam aeternam? Ben non. Et donc effectivement, souvent l'été, il y a moins de volume, il peut y avoir des déceptions. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un point précis. La hausse des marchés, elle n'est pas si concentrée que ça. Avant de venir, j'ai regardé le Dow Jones, avec quand même 20 valeurs sur 30 qui sont à la hausse depuis le début de l'année. Standard & Poor's 500, 300 sur 500. Le Nasdaq, 55 sur 100. Donc, ce n'est pas si concentré. En tout cas, c'est moins concentré qu'on ne le dit. Ça n'empêche que la prudence s'impose quand même. Au cours du premier semestre, ça a été un premier semestre très très volatile, et le pétrole a bien progressé, et donc Total a bien progressé. Par contre, le Thalès, vous savez, c'était, je vous disais depuis plusieurs mois sur cette antenne, il y a deux valeurs, je dirais, un petit peu contracycliques sur la place de Paris. Vous aviez Thalès et Total. Total, ça a bien fonctionné, Thalès, non. En fait, on a vu au cours du premier semestre que les valeurs de défense étaient quand même bien valorisées, et que même, je dirais, il pouvait y avoir une conjoncture géopolitique porteuse, les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel. Alors, vous parliez des vacances, je dirais qu'en ce moment, il y a quand même, au revenu, on aime bien la règle CDR, cash, diversification et rééquilibrage. Alors, cash, oui, je pense très sincèrement. Alors, il ne s'agit pas de vendre toutes vos positions, mais se constituer progressivement sur les lignes sur lesquelles vous êtes en gain. Je pensais notamment à la défense, une poche de liquidité à hauteur de 5 ou 10% pour vous renforcer et revenir sur les marchés en cas de baisse autour de 20%, voire davantage.
D'autant que le cash, vu l'orientation des taux, il va commencer à rapporter un peu plus.
Ah, il commence à rapporter, tout à fait. Alors, le cash dans certaines enveloppes, c'est notamment le PEA, c'est un tout petit peu plus difficile pour le valoriser. Mais oui, il y a des solutions et c'est possible. Donc oui, prendre une petite poche de cash qui rapporte plus qu'auparavant. Alors, la diversification, vous allez me dire, c'est un peu la tarte à la crème. Oui, mais tout le monde, bien sûr, comprend ce principe de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais tout le monde ne l'applique pas forcément bien. Moi, je ne vais pas réinsister sur la diversification géographique ou sectorielle. On en parlait il y a quelques minutes. Moi, c'est la diversification en devises qui, il me semble, est absolument clé et n'est pas assez, importante ou insuffisamment mise en œuvre historiquement en France, alors qu'elle l'est beaucoup plus dans des pays comme la Suisse ou comme le Luxembourg.
Mais vu les mouvements sur l'euro-dollar, par exemple, oui, c'est peut-être pas inutile.
Détenir une poche de 40% en dollars, ça peut faire tout à fait sens. D'ailleurs, de toute façon, le dollar s'est apprécié 2% depuis le début de l'année. Donc là aussi, vous avez profité d'une petite hausse et d'un gain supplémentaire pour vos investissements en actions américaines. Vous avez la livre sterling aussi, qui est quasiment à un point bas depuis 2008, voire même hors 2008-2009, c'est un point bas depuis 2000. Là aussi, c'est la possibilité de jouer à terme la revalorisation de livre sterling. Ça ne se passera peut-être pas au cours des trois prochains mois, mais à terme de 4-5 ans, moi, il me semble que c'est porteur de sens. Et puis, vous avez toujours le franc suisse. Alors là, c'est pas le même scénario. C'est une progression régulière depuis 20 ans, mais quand même des belles pharmaceutiques qui, là aussi, peuvent être mises en portefeuille. Mais attention, on est sur une perspective de long terme et l'indice, le MSCI Switzerland, même avec la valorisation du franc suisse, ça vous fera jamais que du 7 ou 8%. Moi, personnellement, c'est déjà pas mal sur longue période. Et le dernier point, c'est avant de partir en vacances, regardez quand même le rééquilibrage. Rééquilibrage, c'est le principe, c'est de revenir à la fin de la période sur votre allocation d'actifs du début d'année, donc la répartition géographique et sectorielle. Alors historiquement, j'aime pas trop parce qu'en fait, ça revient à couper des positions des positions qui sont gagnantes et à se renforcer sur des positions qui sont perdantes. Donc prudence, mais il y a quand même des règles à respecter, pas plus de 15% sur une ligne. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit aux revenus. Mm-hmm. Et la tech, oui, la tech, bien sûr, 100% la tech, mais si elle dépasse plus de 20% de votre portefeuille, donc prudence. Voilà. Donc un premier semestre passionnant, mais quand même un premier semestre où il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés. Et là, aujourd'hui, à quelques jours des vacances, prendre une partie de ces bénéfices à hauteur de 5-10%, moi, me semble cohérent d'ailleurs avec une stratégie de long terme.
Félix, il nous reste une minute. On va dire aussi, peut-être quelques mouvements, quelques arbitrages de prudence, bon, avant un été qui sera nécessairement turbulent. Hein. On le voit, ça commence déjà très fort.
À voir. Ce qui est sûr, c'est que Christian a raison. En fait, si vous voulez investir comme en suivant les mouvements des opérateurs de marché qui sont professionnels, gérants de portefeuille, gérants de fonds, gérants de hedge fund.
Voilà, déjà, on oublie les vacances.
Eux, ils ont des trimestriels à délivrer au 30 juin. C'est ça. Ils seront payés sur leur performance trimestrielle. Donc, c'est normal qu'il y ait des mouvements de débouclage, de liquidation, de blocs d'action massives. Et c'est pour ça que ça baisse aussi, qu'il y ait des prises de bénéfices. Ils sont en train de vendre, ils sont payés au trimestre. Donc, ça c'est, on l'observe, c'est parfaitement normal. N'oubliez pas non plus qu'on est dans ce qu'on appelle un peu le creux trimestriel. Les résultats qui ont été annoncés, les derniers trimestriels, c'était il y a un mois, les premiers, il y a un mois et demi. Les prochains, c'est dans un mois et demi, fin août pour certains. Donc, le marché qui pense pas à court terme, ni à très court terme, mais à ultra court terme, là, il est un peu perdu en ce moment. Il a plus rien à se mettre, il a plus d'os à ronger pour se dire sur quoi je pourrais aller spéculer pour battre les attentes.
Ça manque un peu de carburant.
Ouais.
Voilà, donc c'est la technique. Ouais.
À partir, on va commencer à avoir les premiers résultats des grosses à partir de fin juillet, début août, et là, ça va repartir. Je pense qu'avec la libération du détroit d'Hormuz, on a quand même... on n'est jamais à l'abri d'un nouvel imprévu au niveau géopolitique mondial, mais on a quand même 3 mois de tranquillité devant nous.
Bon, c'est déjà ça, mais ça peut être aussi l'occasion de refaire un petit peu, refaire un petit peu le point sur sa stratégie. En tout cas, merci beaucoup, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Vous revenez dans quelques minutes nous parler de patrimoine et de jeunesse, comment on commence, comment on fait fructifier, et tout de suite les arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Et Gilles Santacreux, boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Un CAC 40 qui corrige assez fort. En tout cas, on surperforme l'Europe boursière parce que sectoriellement, on a quand même quelques valeurs qui nous tiennent bien. Cela dit, on est dans le sillage. On a beaucoup commenté ça du côté des marchés asiatiques et particulièrement le marché de Séoul, le marché de Tokyo. Cela dit, on ne descend pas sous les 8300 points. Pour le moment, on a des supports qui continuent d'agir.
Oui, on a. On a une phase de consolidation qui ne remet pas encore en cause la dynamique haussière qui est toujours en cours du point de vue de la dynamique court terme sur l'indice parisien. Rappelez-vous, pendant depuis la fin du mois de mai jusqu'à mi-juin, on avait une zone de résistance entre 8250 et 8300 points. On vient se reposer sur cette zone des 8300 points. Donc techniquement, qu'est-ce que l'on a ? On a une zone de résistance qui s'est transformée en zone de support et qui plus est après une mini-zone de stress. On a ouvert ce matin sur un gap baissier. Pour l'instant, la séance est assez hésitante. Mais malgré tout, on revient donc sur ces niveaux qui, pour l'instant, confirment la tendance haussière. Donc, sur le CAC 40, en tout cas, pas d'inquiétude. On verra ce que ça va donner avec les marchés américains cet après-midi. Mais pour l'instant, en tout cas, du point de vue de l'Europe, et on peut le voir aussi sur l'Eurostock 50, on est sur une phase de consolidation qui s'inclut totalement dans la dynamique haussière en cours. Donc, pas d'inquiétude. Les points à surveiller, Eh bien, c'est cette fameuse zone de range 8250-8300 points. C'est cette zone qui avait fait office de résistance justement 3 semaines avant la cassure qui avait été provoquée justement par les accords de paix entre l'Iran et les États-Unis, en tout cas les projections d'accords de paix. On revient sur cette zone, donc on la valide. Si on la valide comme support et qu'on repart à la hausse, tout va bien, on est dans une poursuite normale de la dynamique haussière. Par contre, si on commence à casser 8250, on neutralisera la dynamique avec même un risque de retournement si on continue encore à descendre.
Bon, un petit coup d'œil sur les autres actifs qui bougent là ce matin sur les marchés. Bon, le pétrole, hein, on reste sous les 80$, bien arrimé là sur le Brent de mer du Nord. 77,40, 73,48 pour le brut léger américain. Il y a toujours de la pression à la baisse ou est-ce qu'il faut éventuellement se méfier d'un brusque retour au gré de l'actualité géopolitique, hein, évidemment?
Alors, vu la dynamique que l'on a actuellement au niveau du Brent, ça fait plusieurs fois que l'on teste la zone des 77$ le baril. C'est la zone en dessous de laquelle il faudrait redescendre pour commencer à avoir un réel retour à des prix, je dirais, un peu plus raisonnables, entre guillemets, sur le pétrole. En fait, c'est cette zone qui, depuis justement le début du conflit et des tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz, qui fait office de support. Donc, tant que cette zone n'est pas cassée, on peut considérer que nous sommes toujours dans une zone de tension. Donc, la zone des 77, on l'a testée la semaine dernière, on l'a encore retestée dans la nuit, là, ce matin. Donc, on va surveiller un petit peu une éventuelle cassure, mais vraiment, si on cassait cette zone, on pourrait commencer à parler d'une pseudo-normalisation sur effectivement, le prix du Brent.
Et alors, dernier actif, on parlait justement des événements qui peuvent provoquer des remous sur les marchés l'été. On a vu que ça peut partir des taux et aussi des changes. Et il se passe des choses du côté du Japon, avec notamment le yen et ce fameux niveau psychologique des 160. Quelle dynamique se dessine un petit peu en ce moment du côté de la paire yen-dollar?
Alors, on se rapproche de niveaux critiques, hein. C'est un niveau sur lequel j'attire l'attention à mes abonnés depuis maintenant quelques jours. On se rapproche de la zone des 162 yens pour un dollar. C'est des niveaux supérieurs n'ont plus été vus depuis 40 ans, hein, c'est pour vous dire. Et on sait qu'au-delà des 160 yens pour un dollar, eh bien, on commence à voir la Banque centrale du Japon qui va soutenir sa monnaie, puisqu'un dollar yen qui monte, c'est un yen qui baisse. Et on pourrait avoir des actions. Le problème, c'est que l'on a vu que les dernières actions de la Banque centrale du Japon que nous avons eues avaient de moins en moins d'effet. Donc là, on va peut-être vers des problèmes si la hausse, je dirais, persiste. Et on est notamment soutenu par le dollar, qui a une tendance légèrement haussière actuellement. On le voit aussi sur l'euro-dollar.
Bon, mais on va être vigilant parce que ouais, c'est de là que peuvent aussi venir les turbulences. Merci beaucoup, Gilles Santacreux, boursicoté.com. Le CAC, donc, moins 0,75%, hein, pas mal de résilience. 8337 points pour l'indice parisien qui surperforme un petit peu la tendance européenne et qui résiste bien aux turbulences du côté des marchés asiatiques et notamment à cause du secteur des semi-conducteurs. On fait une petite pause dans ce tout pour investir. Et Christian Fontaine revient dans quelques minutes. Comment commencer à se constituer un patrimoine quand on est jeune, quand on a la trentaine? Toutes les réponses tout de suite dans un instant.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Bon, vous venez de commencer votre vie active, vous commencez à avoir la chance de pouvoir mettre un petit peu de sous de côté, vous avez la trentaine. Comment on commence à patrimoine? Parce que c'est un petit peu comme commencer une stratégie, commencer un plan, commencer une nouvelle vie, il y a un peu l'angoisse de la feuille blanche. Alors, Christian Fontaine, magazine de revenus, merci d'être à nouveau là pour répondre à cette question. Parce que se créer un patrimoine de toutes pièces, alors déjà, a priori, on en a un petit peu par ses parents et y a des considérations de génération. Mais voilà, quand on veut commencer à mettre de côté pour sa vie future, comment on fait, par quoi on commence? Et puis, voilà, surtout, les premiers pas, c'est quoi selon vous?
D'abord, deux préalables. Le premier préalable, ça va de soi, mais il faut le rappeler, il faut s'intéresser à la matière. Oui. Il faut un minimum s'investir dans la gestion de son argent, dans le choix de ses placements, de ses investissements. Et je dirais que le jeu en vaut largement la chandelle, puisqu'il y a là des gains de productivité et surtout des gains de pouvoir d'achat considérables. C'est vraiment, les Français comparent beaucoup lorsqu'ils achètent des produits d'équipement, des produits de grande consommation, mais ils comparent peu et ils s'intéressent pas encore assez à la gestion gestion de leur argent. Le deuxième point, c'est d'y consacrer un minimum de temps, on va dire entre une demi-heure et une heure par semaine. Et je dirais que le troisième point, il ne faut pas hésiter à placer comme on aime. C'est-à-dire que on parle beaucoup sur votre émission et dans Le Revenu aussi, on parle d'assurance vie, on parle de bourse, on parle d'action, on parle d'ETF, on parle de crypto-actifs. Je dirais que tous ces placements ont des atouts et des inconvénients. Par contre, ce qu'il faut, c'est absolument être à l'aise avec vos placements, comme il faut être à l'aise avec vos dettes. Et si vous aimez davantage la pierre que les placements financiers, ben, il faut y aller. Mais si vous préférez la bourse à la pierre aussi, il faut ne pas hésiter. Alors, à 30 ans, d'accord avec vous, Antoine, on commence à être un tout petit peu installé dans la vie. En tout cas, on peut espérer d'avoir un contrat, un travail avec un minimum de qui vous offre un peu de visibilité, de la visibilité sur le plan professionnel, de la visibilité sur le plan personnel. Donc, c'est quand même c'est le l'âge idéal pour la charnière, pour commencer à poser donc, alors, des fondations solides. La première pierre, bien sûr, d'un patrimoine réussi, je vais vite parce que c'est connu, bien sûr, sur la constitution d'une épargne de précaution égale à 3 à 6 mois de dépenses courantes qu'on place sur un livret A LDDS ou un livret d'épargne populaire si on y a accès. C'est de l'épargne pour les coups durs, c'est de l'épargne pour remplacer une machine, c'est de l'épargne pour payer un surcroît d'investissement, un surcroît d'impôt. C'est absolument indispensable. C'est cette poche de liquidité qui va vous permettre de ne pas puiser dans votre épargne de long terme si jamais il vous arrive un pépin. C'est absolument essentiel.
Donc, c'est la tuyauterie. Hein. C'est pas une fin en soi. C'est vraiment
un minimum, minimum 3 à 6 mois de dépenses sur des livrets. Ouais. Pas davantage. Pourquoi ? Ben parce que le livret A, c'est 1,5% et donc ça rapporte moins que l'inflation. Donc vous perdez chaque mois en pouvoir d'achat. Il faut le matraquer. Donc on y place le minimum. Quant à l'excédent, bien sûr, on ouvre les fameuses enveloppes fiscales, PEA, assurance vie, ces deux enveloppes fiscales absolument indispensables. On est en France, on ne peut pas raisonner hors fiscalité, ce n'est pas possible, sinon vous allez vous faire rattraper par la patrouille le jour où vous sortirez de vos placements.
Alors, si vous avez la chance d'avoir un excédent, c'est toujours bien.
Bien sûr, donc, mais l'avantage c'est que vous pouvez ouvrir un PEA ou un contrat d'assurance vie avec quelques centaines d'euros, ça suffit largement.
Oui, il n'y a pas de... Oui,
ensuite, ce qui compte, c'est que, en fait, c'est la date d'ouverture du contrat qui va vous permettre. Le compteur fiscal va commencer à tourner à partir de cette date-là. Et donc, comme le PEA, il faut 5 ans depuis l'ouverture pour profiter de la fiscalité la plus favorable et l'assurance vie 8 ans. Si vous en ouvrez aujourd'hui et que dans quelques années, vous avez des rentrées d'argent importantes, ces enveloppes fiscales seront les réceptacles idéales pour votre épargne et vous n'aurez plus à attendre que quelques mois, voire quelques années au maximum pour profiter de la fiscalité la plus favorable.
C'est pour ça que le banquier ou le CGP vous dit toujours, il faut prendre date. Oui, non mais ils ont raison parce qu'on pose une petite centaine d'euros et puis au final, on a un support qui est défiscalisé plus vite. Voilà, ça permet
Ils ont raison pour PEA et assurance vie. Alors, pour terminer, deux points. Le premier, c'est acheter ou louer. Vous savez, ça, c'est une grande question. Au revenu, on a résolu le problème. Presque ad vitam aeternam, on ne spécule pas sur la résidence principale. Et je vais vous expliquer très concrètement. Jamais, donc, on achète si on dispose d'un minimum de visibilité sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et si on peut pas acheter son logement parce que on habite dans une ville où l'immobilier est trop cher, une grande métropole, il faut prendre un pied dans l'immobilier en investissant dans du locatif, voire une résidence secondaire. Et pourquoi ça? Ben pour une raison très simple, pour ne pas être, je dirais, expulsé du marché si les prix continuent à baisser. Et puis pour être très concrètement au niveau du logement, c'est une façon de sécuriser votre parcours résidentiel et celui de vos proches. Si vous êtes locataire et que vous perdez votre emploi, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Vous pouvez, et que juste à ce moment-là, votre propriétaire veut récupérer son logement pour lui ou pour un proche, vous retrouvez à la rue et bien sûr, aucun propriétaire n'acceptera de vous louer si vous êtes au chômage. Donc là, vous êtes le bec dans l'eau. C'est on ne spécule pas sur la résidence principale, on achète si on met un pied dans l'immobilier. Ouais. L'immobilier, c'est aussi la première décision. Investir dans la pierre, c'est la première décision que vous prenez aussi pour votre retraite. Le jour où vos revenus seront divisés par deux, vous serez bien content si vous n'avez plus un loyer à décaisser chaque mois. Et ça, c'est même sans parler de la prévoyance dont on ne parle jamais assez. Vous savez, l'assurance emprunteur est dans les faits obligatoire lorsque vous souscrivez un crédit immobilier. C'est l'assurance qui va rembourser le prêt si j'ai en cas de décès ou d'invalidité. Et cette assurance est un formidable outil de prévoyance parce que si vous êtes la principale source de revenus au sein de votre famille et qui malheureusement il vous arrive un pépin de santé grave, le conjoint survivant ne devra plus rembourser le capital restant dû à la banque puisque ce capital restant dû sera remboursé par l'assurance. Donc certes, l'assurance emprunteur peut coûter cher et coûte un petit peu d'argent, mais c'est aussi un formidable outil de prévoyance. Et je terminerai en disant que sur ces quelques règles de base, ou ce qu'il faut faire lorsqu'on a 30 ans et qu'on veut bien débuter avec les placements, c'est bien sûr ne pas faire une croix sur la bourse. Dans un monde idéal, on emprunte pour s'acheter son logement, mais on essaye de conserver quelques noisettes pour les investir en bourse. Via un PEA ou un contrat d'assurance vie en DCA.
Pourquoi on ferait une croix sur la bourse si c'est de l'excédent, si c'est une fois que vous avez bien ajusté vos positions sur l'immobilier, sur la prévoyance, sur commencer à regarder pour la retraite? L'excédent, c'est encore mieux quand il marche. On va pas le mettre sur quelque chose qui marche pas. C'est
alors, bien sûr. Après ça, on vit pas dans un monde parfait. Et à partir du moment, notamment dans les grandes villes, si on investit dans la pierre, généralement, on s'endette quasiment à la limite du supportable. Notre conseil au revenu, c'est plutôt de toujours, je dirais, de conserver un taux d'endettement raisonnable, ce qui permet de faire face aux imprévus, de dormir tranquille. Et puis surtout, si vous investissez régulièrement en bourse, vous allez profiter de la tendance haussière de la bourse sur une longue période et au bout de 5, 10, 15 ans, vous avez la possibilité ainsi de vous constituer, je dirais sans trop de douleur, un capital significatif dans lequel vous pourrez puiser pour vous faire plaisir, pourquoi pas une nouvelle voiture, pourquoi pas une résidence secondaire, pourquoi pas, préparer sa retraite. C'est un peu dommage de se priver du potentiel de la bourse, qui est quand même le placement le plus rentable sur le long terme, pour n'investir, ouais, entre guillemets, que dans l'immobilier. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en place effectivement un DCA sur un ETF MSCI World, par exemple, dès 30 ans. C'est un bon placement. D'ailleurs, c'est un placement qui est largement mis en place par tous ces jeunes qui sont venus à la bourse au moment du Covid. Ouais. Ces millions de jeunes, et effectivement, leur placement préféré, ce sont les ETF, et les ETF pas n'importe comment, avec méthode et avec un investissement programmé pour lisser le prix de revient tout en profitant d'un support d'investissement diversifié, peu chargé en frais.
Ouais, c'est vrai que c'est devenu un grand classique de l'investissement, mais il marche, il fait ses preuves et c'est vraiment devenu un changement de paradigme depuis le Covid, cette affaire. Merci infiniment Christian Fontaine du magazine Le Revenu, et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle boîte à outils ou un déchiffrage, et tout de suite on parle des ETF.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Bah oui, on parlait des ETF, on va rester dans les ETF. Arnaud Gian de BlackRock, bonjour. Merci bonjour, d'être avec nous. Alors, la grande hype du moment, vous ne pouvez pas y échapper. Oui, il y a l'IA, ok. La défense aussi, un petit peu en Europe, etc., qui pose un petit peu plus de questions. Mais enfin, on ne va pas sortir du débat. Le débat, c'est l'espace. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme société spatiale qui s'est introduite à Wall Street il y a quelques jours avec un grand succès, mais qui nous remet le nez dans les dynamiques de développement, alors à long, très long, voire très 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 long terme, qui est le développement du spatial. Et ça, on peut le faire via des ETF, bien entendu, mais pas n'importe lesquels. Arnaud Gian, le truc, c'est qu'on a un éléphant dans la pièce qui s'appelle SpaceX, on le nomme. Maintenant, l'espace, c'est pas que ça. Finalement, SpaceX, c'est peut-être un miroir déformant de ce qui est en train de se passer dans l'industrie spatiale, ses besoins en capitaux et le dynamisme que ça peut apporter à des placements, à des investissements particuliers.
Oui, alors je vais faire un tout petit détour. Donc là, on fait référence au spatial qui, en fait, émerge comme un nouveau thème d'investissement.
Ouais.
Et donc, je vais y revenir. Mais en fait, le fait d'investir plutôt dans des thèmes à l'opposé de ce qu'on faisait, en fait, il y a une décennie, de structurer un portefeuille avec un cœur de portefeuille, des satellites plutôt sectoriels. En fait, aujourd'hui, on a une problématique c'est que les déjà les entreprises sont multisectorialisées, si je peux dire comme ça. Donc on a des entreprises qui font un peu tout, et donc c'est le cas beaucoup de dans le giron d'Elon Musk. Beaucoup de sociétés qui sont à la frontière de beaucoup de choses.
SpaceX,
donc,
ils font des dizaines de choses. Ils font de l'IA, ils font du satellite. Et du spatial, c'est pas la même chose. Ils font aussi, vont être intégrés le solaire, machin et compagnie.
Donc déjà, on a un premier écueil, c'est que plus difficile d'investir comme on le faisait avec je mets de l'Europe, du monde et je mets des secteurs qui vont bien. Le deuxième problématique, c'est que on était organisé par filière et donc souvent on avait une filière qui appartenait à la même industrie. Et c'est aussi plus le cas. Donc, quand on organise, par exemple, sur l'intelligence artificielle, vous en parlez très régulièrement sur le concept d'avoir une sorte d'écosystème qui est en train, plusieurs écosystèmes qui sont en train de se créer, dans lequel il y a l'énergéticien, il y a le hardware qui va faire les data centers, il y a l'immobilier, donc il y a plein de choses qui se créent. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de comprendre, là, depuis les dernières années, qu'on a besoin de repenser la façon dont on organise un portefeuille, non plus avec cette idée de région, en se disant, bah déjà, en fait, on a un marché globalisé, donc d'investir sur le CAC 40, est-ce que c'est vraiment la France, non plus, d'investir en sectoriel, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'évolutions. Et donc, on organise tout ça sous forme de thèmes. On a plusieurs façons de le faire, on a trois façons de le faire. On a de la gestion traditionnelle, fondamentale, dans lesquelles on a en général un univers large et on a besoin d'être agile. Donc on peut le faire de cette façon-là et c'est la façon dont on organisait ses portefeuilles sur les 10 dernières années. La deuxième façon, c'est les ETF que vous avez, ETF indiciels. Je vais simplifier. Et sur les ETF indiciels, c'est plutôt la donnée et la richesse de la donnée qui nous a permis de construire ces indices et donc d'atterrir sur un ETF. Comment est-ce qu'on fait sur ces ETF et sur ces indices? On va cartographier avec une extrême finesse les revenus générés par des pans de son activité qui est lié à un thème particulier.
Oui, parce que faut pas oublier, et c'est un phénomène dont vous nous parlez à chaque fois que vous venez, mais qui se vérifie, c'est qu'on en arrive à plusieurs couches finalement de granularité. Et donc l'ETF peut paraître dans un premier temps justement un instrument qui échappe un peu à cette granularité, alors que pas du tout. Si on regarde de manière mécanique, finalement, on arrive à des mécanismes qui permettent de profiter des dynamiques de croissance une par une.
Exactement. Pour parler de la granularité, la fameuse granularité, la technologie, la richesse de données qui est utilisée pour construire notamment les indices thématiques, dont le spatial, qui est un peu le dernier avec le vent dans le dos, il y a jusqu'à 1400 sous-secteur. Donc nous, en fait, on en voit 10, on en connaît 10. Ok, on peut aller jusqu'à 20 parce que dans la technologie, il y a plusieurs choses. 1400, j'arriverai pas à vous donner le tiers du quart.
Non, mais c'est
Donc c'est une extrême finesse et donc ça permet en fait de créer du coup des supports d'investissement qui sont très purs par rapport à cette thématique. Donc ça, c'est le deuxième façon de le faire. Je vais parler ensuite de la troisième qui en fait permet d'allouer d'un thème à l'autre. Parce que si on reconstruit son portefeuille, ce qu'on a, c'est que les marchés, et là on l'a vu depuis le début de l'année, n'arrivent pas à se concentrer sur deux choses.
Ben voilà.
Il y a toujours, en ce moment, des headlines, le premier thème. On avait la crise énergétique avec le conflit en Iran. Ensuite, on repasse sur l'IA. Donc voilà, on peut se concentrer que sur une chose. Et il y a maintenant un portefeuille de thèmes qui est académiquement avéré comme étant structurant dans l'économie. Et en fait, une des façons d'investir, c'est de se dire, OK, quels sont les signaux qui vont permettre de passer à un thème à un autre en fonction de ce qui se passe. Et là, on voit émerger aux États-Unis et qui arrive en Europe une façon, de manière assez quantitative, encore une fois, d'allouer d'un thème à l'autre. Donc là, maintenant, on a créé toutes les briques qui permettent de le faire avec support d'investissement. Maintenant, il y a des façons smart de pouvoir les allouer.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est un peu ces trois vecteurs. Et donc là, en fait, c'est l'investissement thématique de troisième génération qu'on est en train de voir fleurir avec ce mécanisme de rotation.
L'ultime étage de la fusée, si je puis me permettre cette image.
Je vais revenir du coup sur le deuxième pour le spatial, juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup. C'est que le spatial, jusqu'à très récemment, était un petit peu, il n'y avait pas d'économie derrière, il n'y avait pas de business model derrière. On était plutôt dans les visions des uns et des autres. Très difficile, au moins à moyen terme, de pouvoir le monétiser. On n'est plus du tout là-dedans. En fait, on est dans une industrie qui s'est organisée avec un modèle économique. Quand on parle de spatial, on a des drones qui sont assez à la frontière. On a la connectivité, les télécommunications. On a justement toutes la fluidité en fait de cette partie connectivité, communication. Et donc ça permet en fait de donner un rôle économique à cette industrie,
bien sûr,
qui est en train de s'organiser. Et donc c'est pour ça qu'on voit émerger ce thème qui est vraiment le dernier à voir le jour.
Oui. Absolument. Ce que je disais, en fait, SpaceX, c'est peut-être le meilleur exemple et en même temps le pire, parce que c'est sorti de nulle part, c'est sorti de la tête d'Elon Musk, et qu'on reste dans une industrie qui a des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier.
Et peut-être pour faire écho justement à cette entreprise, les fournisseurs d'indices se sont organisés pour les rebalancements, les inclusions.
Ouais.
Des noms en fonction de certains critères qui sont établis, mais avec un peu plus d'agilité, parce que c'est un éléphant dans la pièce.
Effectivement.
Ouais. Donc, on a besoin de pouvoir l'inclure à date.
Ouais, et c'est effectivement une grande question pour le métier de la gestion. C'est l'éléphant dans la pièce, puis il faut le balancer dans la piscine ensuite. Ça fait des éclaboussures. Et en tout cas, ça a provoqué des turbulences et le titre connaît d'ailleurs une forte phase de prise de profit. Merci infiniment Arnaud Gian de BlackRock d'être rentré dans la mécanique de ces ETF qui permettent entre autres d'investir dans le spatial. Et puis dans quelques instants, on va parler encore une fois de toute cette problématique des logiciels versus l'IA. Est-ce qu'on va vers un deuxième tour de disruption? On va voir ça dans quelques instants avec Stéphane Rudzinski de Rétores. Tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Stéphane Rudzinski de Rétores, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous parce qu'on va parler de cet éternel, il y en a encore ce matin sur les marchés, les logiciels ont tendance à repartir alors que les thématiques IA et semi-conducteurs sont en baisse marquée. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être à l'aube d'une deuxième grosse vague de ce qu'on appelait la assassination du côté de Wall Street, à savoir matraquer et faire baisser le cours des valeurs des logiciels parce que l'IA va de toute manière les disrupter. On a l'impression que le discours des fabricants de logiciels ne passe toujours pas auprès des marchés. Ils sont là, attendez, nous on va intégrer l'IA pour être plus efficace. C'est nous qui allons être le maître d'œuvre et l'IA va nous aider. Le discours passe absolument pas. Et du coup, on a des gros investisseurs traditionnels de ce secteur de logiciels qui sont en train un peu de lâcher prise. Et ça, c'est peut-être un signe un petit peu plus sérieux.
Et qui prennent quelques pertes.
Ouais.
Donc, la semaine dernière, vous avez vu l'épisode sur Medallia, donc une des participations de Thomas Bravo.
Le fameux Thomas Bravo.
Le fameux Thomas Bravo, le spécialiste mondial du logiciel. Hein. Thomas Bravo, c'est, je crois, 180 milliards d'encours créés en 2000.
Ils
investissent partout, très spécialisés sur le logiciel, des taux de rendement sur leurs fonds incroyables, hein, puisque sur historique, c'est 30% de performance en moyenne. Et malgré ça, Thomas Bravo se prend un mur sur une de ses participations, Medallia, où il va perdre 5 milliards d'equity.
Bon.
Violent.
C'est assez violent. D'autant plus qu'on disait à cette antenne même que du côté de chez Thomas Bravo, on disait tout ça c'est de l'agitation. En fait, nous, on reste droit dans nos bottes. Ouais, mais reste que ça commence à piquer. Et puis, c'est comme toujours sur les marchés. Dès qu'on a raison, mais pas au bon moment, c'est qu'on a tort. Et là, donc en gros, Thomas Bravo passe la main sur un certain nombre de choses, si je comprends bien.
Oui, exactement. Bon, après, donc ça s'explique. Hein. Je pense qu'il faut refaire un peu l'histoire de cet investissement de Thomas Bravo. Il rentre sur Medallia à la mi-année 2021. Donc post-Covid, une période où tout le marché plébiscite les valeurs, les sociétés qui ont des revenus récurrents.
Ouais.
Donc la valorisation des logiciels monte au ciel. À cette époque-là, 2021, les taux courts sont à zéro aux États-Unis au niveau de la Fed. Et Thomas Bravo va investir un peu moins de 7 milliards sur cette position. avec 5 milliards d'equity, un peu moins de 2 milliards de dettes.
Bon.
Et la mécanique qui s'enclenche est assez assez funeste parce que ils ont recours à des prêteurs privés, à des fonds de dette privés.
Les fameux fonds de crédit privés.
Exactement. Donc Blackstone, KKR, Apollo qui forment un conglomérat pour prêter en fait à Medallia.
Entreprise, ouais.
Et avec une option sur la dette qui est un peu particulière, puisque l'entreprise a la possibilité de soit payer ses intérêts, soit de ne pas les payer, mais dans ce cas-là, ça va capitaliser sur la dette existante. D'accord. Et la dette initiale d'1,8 milliard va très vite passer en fait à 3 milliards.
Sur ce genre de marché.
Ah bah ça va très très vite quand on capitalise de la dette PIC, ça peut aller très très vite. Et donc résultat des courses, comme finalement la croissance de l'entreprise n'est pas au rendez-vous, les prêteurs disent écoutez, c'est simple, là aujourd'hui je veux que vous payiez ces intérêts. Et l'entreprise n'est pas en capacité de le faire. Donc Thomas Barrault ne veut pas remettre d'argent, donc les fonds de dette privée prennent les clés du camion et prennent la possession de l'entreprise, ce qui efface les 5 milliards d'equity de Thomas Barrault.
Oui, puis ça, on sait comment ça se passe. Souvent, les ajustements peuvent être assez violents via des instruments de dette, etc. Là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui est important, qui est un moment important. Quelles leçons on peut en tirer en tant qu'investisseur qui légitimement a le droit de se dire mais on va pas lâcher tout ce secteur, enfin l'IA va pas pulvériser tout un secteur comme ça ex nihilo. Quelle leçon on peut en retirer?
La première leçon, c'est, je pense qu'il faut aller la chercher du côté des investisseurs, enfin des parties prenantes. Hein.
Ouais.
Chez Blackstone, par exemple, pour eux, vraiment, ils mettent le doigt sur un manque de réalisation, en fait, un problème d'exécution, en fait, dans le programme de développement. Et Thomas Barrault a reconnu déjà hein, depuis plusieurs années qu'il avait payé très cher, en fait, cette participation et qu'il s'était complètement trompé sur le potentiel de développement dans l'entreprise. Au-delà de ça, pour les investisseurs, il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est que quand on investit sur du private equity, évidemment, il faut investir très régulièrement sur les millésimes qui suivent année après année. C'est comme le vin, en fait. Hein. Quand vous faites du primeur, il vaut mieux les acheter tous les ans plutôt que de faire un énorme focus sur une année.
Oui.
Ça, c'est la base.
Première leçon,
Première de diversification sur les millésimes. Ensuite, c'est diversification, évidemment, sur les géants, parce qu'on voit même que même les meilleurs, Thomas Barrault, qui est la star incontestée hein, du logiciel dans le monde, donc même les gérants, il faut absolument les diversifier. Et également, lorsque vous construisez un portefeuille d'actifs privés, et notamment de private equity, il va falloir diversifier également les secteurs. La tech, le logiciel, c'est super. Hein, c'est 40% du private equity. Hein, c'est 15% du MSCI World.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres secteurs très résilients. La santé, les services aux entreprises qui, eux, sont beaucoup moins menacés.
Qui peuvent être liés en plus.
Ouais, beaucoup moins menacés par l'IA. C'est les trois grandes leçons qu'il faut tirer. Et puis enfin, sur le logiciel, faut absolument pas tout mélanger. Il y a des logiciels qui vont se faire complètement disrupter.
Oui,
c'est sûr et certain parce que c'est des logiciels très génériques avec quelques lignes de code, une belle interface, mais qui vont être très rapidement concurrencés par de l'IA, par les clients eux-mêmes, hein, parce qu'aujourd'hui, nos clients sont capables aussi, grâce à l'IA, de reproduire des produits et services. Et puis, il y a ces autres types de logiciels qu'on appelle les System of Records qui maîtrise la donnée.
C'est ça la clé.
Ouais, c'est bien sûr.
L'intégration de la donnée. Ouais.
La donnée principale, cœur de l'entreprise, et qui sont complètement encastrées en fait dans les entreprises. Et sur ce style de logiciel, objectivement, il n'y a pas grand risque en fait. Il n'y a que des gains de productivité à aller chercher par l'IA.
Stéphane Rudzinski, regard très clair hein, sur le monde du logiciel, de l'investissement. Stéphane Rudzinski de Rétores, merci d'avoir été avec
nous. Merci Antoine.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Tout pour investir, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez dans quelques minutes Marie Cœur de Roy, les experts IMO. Et puis je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.